Audiolib présente Darwin à la plage. L'évolution dans un transat. De Jean-Baptiste de Panafieux. Lu par Christophe Brault. Ce livre audio s'accompagne d'un PDF comprenant des illustrations, des schémas et une bibliographie téléchargeable sur audiolib.fr. Prologue. La nature est bien faite. Combien de fois avons-nous entendu ou prononcé cette exclamation qui a souvent valeur de remerciement envers la nature, une entité maternelle, providentielle, presque divine, qui aurait tout agencé pour favoriser notre existence terrestre. Nous manifestons aussi par ces mots le plaisir d'entrevoir un peu de l'extraordinaire organisation du monde qui nous entoure. Ce monde qui nous fournit l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les plantes et les animaux que nous mangeons et toutes les autres merveilles que nous pouvons admirer quand nous ne les avons pas saccagées. La nature est harmonieuse et nous ne pouvons que nous réjouir d'en faire partie. Malheureusement pour nous, cette satisfaction naïve ne correspond plus à la réalité du monde vivant, et ce depuis plus d'un siècle et demi. Plus précisément depuis 1859, l'année de parution de « L'origine des espèces », un ouvrage écrit par le naturaliste anglais Charles Darwin. Contrairement à ce que l'on croit parfois, sa principale contribution à l'histoire de la biologie n'est pas tant l'idée d'évolution, qui à l'époque commençait déjà à séduire les esprits, que la destruction de notre croyance profondément ancrée en une nature généreuse et prévoyante, destinée à satisfaire tous nos besoins. Dans ses écrits, beaucoup de ses lecteurs ont vu le tableau sombre d'une nature indifférente, sans intention ni projet. Pire encore, Darwin bouleverse l'idée que l'homme se fait de sa propre place dans la nature. Il n'est plus le joyau de la création, mais une espèce parmi d'autres, dont il ne se distingue même pas par l'origine, puisque nous partageons tous les mêmes ancêtres. Cette réalité reste insupportable à ceux qui se réfugient dans les récits mythiques d'une création divine, ou se plaisent à imaginer un monde soumis aux interventions incessantes d'un dieu bricoleur. Mais à ceux qui préfèrent comprendre la nature pour mieux en apprécier les merveilles, la théorie de l'évolution offre à la fois le plaisir d'en décrypter les mystères, du moins une partie d'entre eux, et des outils pour continuer d'en déchiffrer l'histoire. Aujourd'hui, loin d'être une théorie essoufflée et vieillotte, le darwinisme est toujours bien vivant. Il a été considérablement enrichi par la génétique, la biologie moléculaire, la biologie du développement ou l'écologie comportementale et constitue un cadre pour la recherche dans tous les domaines des sciences de la vie, de la paléontologie à la zoologie, de la botanique à la médecine. Chapitre 1. Le voyage initiatique du jeune Darwin. Lors du tour du monde qu'il effectua à bord du Beagle, le jeune Darwin fut confronté à une profonde remise en question de tout ce qu'il croyait savoir sur l'origine des êtres vivants. Ce bouleversement aboutit à la publication de son célèbre ouvrage « L'origine des espèces ». On se représente souvent Darwin sous les traits d'un vénérable vieillard à longue barbe blanche, comme il apparaît sur les photos réalisées à la fin de sa vie. Mais l'élaboration de la théorie de l'évolution remonte à sa jeunesse, lorsqu'il fit le tour du monde à bord du Beagle. Parti à 26 ans, il en avait 31 à son retour. Et il était âgé de 50 ans lorsque parut son livre le plus célèbre, « L'origine des espèces ». Darwin se méfiait d'ailleurs des effets de l'âge, comme il le confia dans son autobiographie. « Quelle bonne chose ce serait si les scientifiques mouraient à 60 ans, car passé cet âge, leur opposition à toute théorie nouvelle est certaine. » Le tour du monde d'un naturaliste. Le 27 décembre 1831, le Beagle quitte le port de Plymouth en direction de l'Amérique du Sud. À bord de ce trois-mâts de 30 mètres de long, on compte 64 hommes sous les ordres du capitaine Fitzroy. Bien que ce dernier n'ait pas dépassé 26 ans, c'est déjà sa seconde mission. Il a été chargé par l'amirauté de cartographier les côtes de la Patagonie en vue d'y repérer les zones susceptibles d'accueillir les navires de la flotte anglaise en cas d'avarie ou de tempête. Quelques mois auparavant, Robert Fitzroy avait demandé à